Bonjour Dominique Bonnat. Nous sommes ravis.
Bonjour.
Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir entre Paris et Bordeaux à la librairie Imola. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes romancière. Vous avez reçu le prix Interallié pour Malika, par exemple, et aussi le Renaudot pour le manuscrit de Port-Ébène, et membre de l'Académie française depuis 2013. Et vous êtes l'auteur aussi de nombreuses biographies consacrées à des écrivains, à des artistes, peintres, sculpteurs. On vous doit notamment des écrits sur Bat Morisot, sur Gala, sur Camille et Paul Claudel, sur Clara Malraux, Romain Gary ou Colette. Aujourd'hui, votre dernier ouvrage, en fait, est une autobiographie consacrée à Jacqueline de Ribes, aux éditions Gallimard. Alors, Jacqueline de Ribes est assez méconnue en France, un peu plus aux États-Unis. Pourtant, elle a été une icône de la mode, une incarnation de l'élégance à la française, une créatrice de mode aussi, une vicomtesse, une étoile de la haute société et une grande animatrice du Paris, de la vie parisienne entre les années 60 et 80. Et pourtant, elle est méconnue en France. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir c'est quand et comment vous avez découvert l'existence de Jacqueline de Ribes.
Bien, à l'origine de ce livre, en fait, il y a un moment pour moi de sidération. Quand j'ai vu le visage de Jacqueline de Ribes illuminer New York. Il y avait ce soir-là à New York une espèce de projection pour le public sur l'Empire State Building, qui est la plus grande tour aujourd'hui de New York. Et c'était un défilé de beauté féminine qu'on pourrait qualifier de iconique. Il y avait Marilyn, il y avait Liz Taylor, il y avait Audrey Hepburn, mais il y avait aussi Kate Moss, enfin des stars beaucoup plus récentes. Et tout à coup, et s'est affiché le visage de Jacqueline de Ribes, saisi par le photographe Richard Avedon dans les années 60. Je connaissais la photo, je connaissais aussi Jacqueline de Ribes, mais de la voir ici apparaître dans ce défilé, où elle était la seule Française, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'étonnant, quelque chose de romanesque. J'ai eu envie d'en savoir plus.
Mais c'est la première fois que vous écrivez donc sur une personne qui est vivante. Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail de biographe ?
Alors, ça change quand même les choses parce que pour la première fois, je pouvais avoir un entretien avec mon personnage. Il y avait un face-à-face réel avec le personnage. Il y a toujours un face-à-face. On s'entretient mystérieusement, même avec les personnages du passé. Mais là, c'était formidable, parce que d'une part, elle pouvait me raconter sa vie, je pouvais l'interroger, je pouvais confronter mes analyses à son propre récit. Et puis, il y a eu une autre chance, c'est que non seulement elle a accepté l'idée de ce livre, donc de se livrer à moi, mais en plus, elle m'a ouvert ses archives. Et elle possède des archives absolument étonnantes, ce sont des archives privées, mais qui témoignent de toute une vie, je dirais 50 ans, de bals, de fêtes, de mondanité. Toute cette vie étincelante, très étonnante qu'elle a eue, et qui contraste tellement avec notre époque, était là, chez elle, dans des albums. Et le fait qu'il y ait ces archives, évidemment, pour moi, c'était des inédits exceptionnels.
Vous avez pu piocher dans ces archives comme vous
voulez. Oui, sans réserve. Oui, sans réserve, parce qu'elle a conservé depuis l'âge de 20 ans tout ce qui a paru sur elle, autour d'elle, dans la presse. Alors bien sûr, en plus, il y a les albums de famille, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de livres où on parle d'elle. Tout cela a été vraiment soigneusement archivé. Selon les années, il n'y avait qu'à feuilleter les pages et je retrouvais finalement à travers la presse, que ce soit la presse française, italienne, espagnole ou américaine, toute cette vie qui était par image. C'est une vie qui se déroule par image. J'ai eu envie de donner le texte.
Vous dites à un moment du livre que son histoire s'inscrit dans une filiation, une lignée. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ses grands-parents et de ses parents qui ont été essentiels dans la construction de sa personnalité ? Alors c'est peut-être une grande question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Au départ, c'est une aristocrate. C'est une aristocrate. Elle est aristocrate de tous les côtés, côté paternel, côté maternel. Donc côté, son nom de jeune fille est très joli. Elle s'appelle Jacqueline Bonin de la Boninière de Beaumont, et c'est un nom qui remonte aux croisades. Donc on a là un passé prestigieux, c'est amusant pour qui n'appartient pas à ce genre de société, ce qui était mon cas. Et de l'autre côté, côté maternel, ce sont les rivaux de la Raffinière qui sont d'une noblesse plus récente, ces fameux grands-parents maternels qu'elle a adorés, qui l'ont élevée jusqu'à l'âge de 10 ans, et dont elle a dit finalement qu'ils avaient plus d'affection à lui donner que ses propres parents. Donc ces rivaux de la Raffinière qui viennent de la province du Poitou, et le grand-père est une sorte de Rastignac qui a vraiment créé sa propre fortune au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et c'est une fortune qui s'est établie dans les colonies françaises de cette époque, donc principalement en Indochine, autour de l'arbre à caoutchouc. Donc là, il y a une sorte de saga coloniale à l'origine vraiment de l'histoire de Jacqueline de Ribes. Et puis, quand elle se marie, c'est encore une aristocratie, la famille de Ribes, qui est peut-être un peu moins ancienne que sa famille, que les Beaumont, parce qu'ils ne remontent pas du tout aux croisades. Ils ont été anoblis plus tard, sous la Restauration. Mais il y a une jolie histoire, c'est que ces Ribes avaient... un des Ribes était banquier et il avait financé la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Après quoi, il a dû bien sûr s'enfuir en Angleterre, où il a passé le restant de ses jours, et il a été anobli par la suite. Donc, au départ, c'est une aristocrate, mais ensuite, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que ce milieu de l'aristocratie rejoint d'autres mondes, à la fois un monde proustien, et puis un monde côté jet-set international dans les années 60-70. Donc on a une espèce de grand mélange entre la tradition, la modernité, les mœurs, disons, anciennes et un peu proustiennes, style boulevard Saint-Germain, que décrit si bien Marcel Proust dans La recherche du temps perdu, mais en même temps, le ski nautique, le ski à Saint-Moritz, enfin les voyages innombrables aux États-Unis. Donc il y a un monde qui bascule, qui change, et c'est cet instant-là que j'ai aimé saisir, ces mondes qui sont en même temps, je dois dire, j'étais face à des mondes tous très romanesques, parce que des mondes disparus, ça n'existe plus du tout, les mondes qu'elle a fréquentés ont vraiment se sont effacés. Et donc il y avait une sorte, pour moi, qui suis toujours très curieuse des mœurs du passé, parce que le passé, c'est un peu notre miroir pour essayer de nous comprendre. C'est pas mal, le passé, finalement. Et c'était merveilleux de décrire tout ça avec les documents que je pouvais avoir en main.
On l'a beaucoup comparé, en fait, à la duchesse de Dorian de Guermantes, de la Ruisse proustienne. Est-ce que vous nous en parlez de cette...
Oui. Oui, alors, à l'origine de cette comparaison, il y a Luchino Visconti, le grand réalisateur de Mort à Venise et de bien d'autres films. Et vers la fin de sa vie, Visconti a eu l'idée, c'est-à-dire dans les années 60, d'adapter au cinéma La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc il a évidemment cherché des acteurs pour chacun des personnages de la recherche. Il avait imaginé Alain Delon, baron de Charlus. Il avait imaginé Charlotte Rampling pour Albertine. Et pour la duchesse de Guermantes, il avait demandé à Jacqueline de Ribes, qui n'est pas du tout une actrice de profession, mais qui est une authentique aristocrate, d'interpréter le rôle d'Oriane. Et certainement était-il captivé par la beauté d'abord de Jacqueline de Ribes, qui correspond assez bien à celle d'Oriane, mais aussi par cette espèce de port de tête presque majestueux, qui est le port de tête d'un cygne, on l'a beaucoup comparé à cet animal du cygne, qui est aussi celui de la duchesse de Guermantes. Marcel Proust a très bien décrit combien, tout jeune, il était ébloui et presque ébahi par ce phénomène, l'apparition de la duchesse de Guermantes. Et en fait, Jacqueline de Ribes possède cet éclat, elle possède aussi cette espèce d'attitude de grand oiseau qui domine à la fois son époque, son temps, les gens autour d'elle. Il y a cette espèce de majesté du cygne que Visconti avait aimé. Et malheureusement, ce film ne se fera pas, car Visconti meurt juste avant de le réaliser.
Vous parlez de cygne, ça fait penser à Truman Capote.
Oui, Alors là, c'est une autre comparaison. Avec Jacqueline de Ribes, on passe absolument de Visconti à Truman Capote. Ensuite, on va passer sûrement à Yves Saint-Laurent, etc. Mais Truman Capote, c'est important, parce que Truman Capote, donc, c'est un écrivain américain qui a fréquenté les très belles femmes de son temps, dont, par exemple, Barbara Paley, ou Gloria Vanderbilt, ou Marella Agnelli, qui font partie de ce troupeau de cygnes que Truman Capote a admiré, avait relevé parmi les cygnes Jacqueline de Ribes. Donc, elle est déjà immortalisée, on dirait, par Truman Capote, qui Richard Avedon, en même temps, a donné les images de ces merveilleux cygnes, et c'est Truman Capote qui a écrit quelques textes sur eux. Pour Jacqueline de Ribes, il avait trouvé cette formule étonnante. Jacqueline de Ribes avait le nez parfait. She had the perfect nose. Parce qu'elle a un nez assez affirmé, un nez droit, qui est ce qu'on appelle dans sa famille le nez des Beaumont. Et ce nez fascinait Truman Capote, qui disait que les femmes avec un petit nez ne l'intéressaient pas, parce qu'évidemment, sans doute, quand on a un petit nez, on perd en caractère. Jacqueline de Ribes a du caractère. Et du point de vue du profil, vraiment, sur toutes les photos, il n'y a qu'une comparaison possible, c'est avec Nefertiti. C'est le profil de statue égyptienne ou grecque, si on veut, mais voilà, un statut de déesse, en fait.
Mais justement, Richard Avedon a fait toute une série de photos avec elle. Elle est en sphinx, une de ses photos célèbres. Elle est en sphinx.
Oui, elle a posé en sphinx pour Richard Avedon, en effet. Dans la position du sphinx, avec ses grands cheveux défaits, qui rappellent un peu la coiffe du sphinx.
Votre livre, c'est autant une biographie que vous faites mémorialiste d'un monde disparu, en fait. On ressent vraiment l'intérêt de votre livre, c'est vraiment de faire revivre ce monde international, ce gratin mondain qui mélange des aristocrates, des milliardaires, des artistes, et et vous faites vraiment espèce de portrait, en fait, d'un monde, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on passe du gratin poustien à la Café Society et à la Jet Set, et on peut dire que Jacqueline de Ribes a incarné ces trois mondes-là. C'est assez extraordinaire, parce qu'évidemment, elle était
vivante. Oui. Mais c'est vrai que c'est ce qui me plaisait, c'est de voir Jacqueline de Ribes traverser ces mondes avec une certaine légèreté, sans s'apesantir. J'ai essayé de garder ce caractère comme ça de légèreté, et autour d'elle, de montrer cette société des années 50, 60, 70. Qui, évidemment, est une société privilégiée, une société des heureux de la terre, on pourrait dire, parce qu'ils sont à la fois beaux, riches, célèbres, ils ont toutes les cartes en main. Ils organisent des fêtes qui, aujourd'hui, n'ont plus jamais cours, je pense, c'est-à-dire ils sont capables d'animer Venise tout entière, juste pour un bal, par exemple. Et on les voit venir du monde entier, converger vers Venise avec des déguisements fastueux pour danser toute une nuit. C'est un caractère irréel, féerique et même, j'ose le mot, mythologique. Parce que c'est tellement improbable, vous voyez, on a tellement de peine à se projeter dans ce monde-là. Et en même temps, on y retrouve une part de rêve comme dans un conte de fées. Voilà. Et donc, j'ai eu à cœur de faire revivre, par exemple, Charles de Bestegui, le marquis de Cuevas, enfin, un certain nombre de personnalités, le baron de Rédé, il y a également Marie-Hélène de Rothschild, enfin, toute cette micro-société qui est assez, en même temps, aristocratique, mais mélangée d'un certain nombre de phénomènes fantasques très amusants. Venu du Mexique, venu du Pérou, venu d'Andalousie, pour pailleter un ensemble. Donc je dois dire que l'écriture de tout ça, enfin, cette espèce de mélange des mondes, ce côté, il y a des gens qui se ruinent au passage, des désespérés, qui cherchent un sens à leur vie en dansant. Tout ça m'a beaucoup intéressée. Enfin, c'était un univers que je connaissais un peu, parce que c'est un mélange de Café Society. J'ai un petit peu étudié quelquefois autour de mes autres livres, donc Café Society, mais aussi Jet Set International. Et là, j'étais un petit peu perdue, donc il fallait à chaque fois que je retrouve, vous voyez, des histoires de Gunter Sachs, Prince de Hohenlohe, etc., et rétablir le panorama.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, vous parlez des balles, on peut dire que c'est le moment l'acmé de cette vie mondaine, en fait. Vous parlez longuement du bal du siècle, de Charles Bestegui, de d'autres balles importants. Est-ce qu'on peut parler de ce grand bal du siècle en 51 au Palais de la Bière?
Oui, écoutez, je lui consacre carrément un chapitre à ce bal du siècle qui a eu lieu donc en 1951. Parce que c'est le plus beau de tous les bals qui ait jamais eu lieu. Les déguisements étaient extraordinaires. On a vu les masques arriver sur des gondoles qui étaient transformées en fonction des thèmes abordés. Il y avait par exemple l'empereur de Chine qui était Arturo Lopez, qui est arrivé sur une gondole. Les gens avaient l'impression... Vous voyez, je dis « on » parce que j'ai l'impression d'y être, parce qu'à force de raconter, on se projette complètement. Les gens ont eu l'impression de le voir arriver directement de Pékin, une espèce de longue robe et avec des ongles en or, etc. Et Jacqueline de Ribes a eu un déguisement très amusant. C'était pour elle une grande première. Elle avait une vingtaine d'années. Elle était la plus jeune de tous les invités. Et elle était déguisée en dame blanche. Époque 18e siècle, donc une robe à paniers, toute blanche avec une perle autour du cou et simplement un masque noir devant le visage. Mais c'était trop simple pour elle d'être en dame blanche, donc elle avait imaginé d'être trois fois moi. Donc trois dames blanches sont apparues sortant de la gondole, identiques, absolument identiques, même taille, même proportion, même costume, même chaussures, même petit éventail. Et elles se sont avancées vers Charles de Bestegui, qui est élu en procurateur de Venise avec une immense perruque à la Louis XIV. Donc tout ça a été immortalisé par quelques photographes triés sur le volet, dont Robert Doisneau, et également par un peintre qui s'appelle Serebriakov et qui a donné des aquarelles de ce bal. Donc je me suis attachée à expliquer comment au Palais Labia, qui est un des beaux palais sur le Grand Canal, avait eu lieu, où il y a des tiepolos d'ailleurs extraordinaires qui ont inspiré une partie des invités. Voilà. J'ai eu l'impression, vous savez, de décrire non pas un événement, mais presque un tableau. C'est un tableau avec d'innombrables détails et de reconstituer ce bal d'une époque.
Pour revenir à...
Je sais bien que nous sommes dans la superficialité en vous racontant tout ça. J'en ai pleinement conscience et ça a fait partie de mes obsessions pendant que j'écrivais ce livre. Une sorte de superficialité. Qui aujourd'hui pense pendant 6 mois à la façon dont il sera habillé au bal auquel on est invité? Plus personne, évidemment. Or, ces bals, il faut le comprendre, avaient lieu, vous imaginez, en 1950, au moment où l'Europe se relève de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens sont encore traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale, qui s'achève à peine, qui laisse les gens traumatisés, avec des tragédies qui se sont passées. Et on voit, parce que ce bal merveilleux, qui est le sommet des bals, n'est qu'un parmi d'innombrables, car on voit surgir au lendemain de la guerre, très vite, toutes sortes de bals, y compris les bals populaires, les bals de quartier, les bals de pompiers, les bals du 14 juillet. C'est comme si tout le monde avait voulu se mettre à danser au lendemain des tragédies. Et très curieusement, ce même phénomène était arrivé après la Première Guerre mondiale. Donc c'était voilà. Mais simplement, il se déroule là dans un univers où les gens ont les moyens de leurs rêves Et donc, ils vont offrir, enfin, Charles de Bestégui a voulu offrir à la fois à ses invités et à la ville de Venise une sorte de rêve éveillé.
Alors, pour revenir à Jacqueline de Ribes, elle n'était pas destinée par son milieu à travailler, et pourtant, elle a énormément travaillé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qu'elle a fait comme métier? Enfin, elle a été productrice de théâtre, productrice pour la télévision. Elle a été aussi créatrice de monde, on en parlera peut-être après, mais elle a beaucoup, beaucoup travaillé, en fait.
Oui, parce que c'est en fait une femme qui déteste l'amateurisme, et donc quand elle entreprend quelque chose, elle est à fond, et elle veut appliquer une énergie, j'allais dire, professionnelle. Professionnelle, toujours tout ce qu'elle entreprend, même les plus simples des choses, est toujours avec animée par un esprit de perfection. C'est d'ailleurs le démon de son personnage. Elle a l'esprit de perfection jusqu'au boutiste. Et oui, Jacqueline de Ribes, c'est une personnalité à facettes assez complexe. C'est une femme d'abord qui porte un certain nombre de blessures, surtout des blessures d'enfance. Elle a eu une enfance très triste, marquée par l'abandon et par le désamour de sa mère. Donc, elle a toujours un manque, certainement, affectif, qui l'a poursuivi longtemps et qu'elle a essayé de combler de toutes les façons possibles. Ce qui m'a intéressée chez elle, c'est qu'elle rejoint d'une certaine façon, les autres héroïnes que j'ai pu décrire dans mes livres. Car elle-même, au départ, au fond, elle a tout en main. Elle est belle, elle est riche, elle est intelligente, elle a absolument tout en main. Mais au lieu de se satisfaire des données de la vie, elle se dit « ce n'est pas possible d'avoir tout ça, il faut que j'en fasse quelque chose ». Et dès le départ, et c'est là qu'elle ressemble à mes autres héroïnes, elle a essayé de donner un sens à son existence, elle a tenu à marquer son passage sur cette terre. Or, c'est une femme d'une part qui n'a pas fait d'études, c'est une femme qui, normalement, par le milieu dont elle vient, devait rester à la maison, devait rester mère de famille, épouse, et elle a voulu se sortir de tout ça, de ce qu'elle appelle une prison dorée. Et essayer de montrer qu'elle était capable de faire quelque chose par elle-même. Donc, elle s'est orientée vers plusieurs pistes. Elle a essayé un petit peu le journalisme, mais bon, ça n'a pas abouti, c'est compliqué. Elle s'est beaucoup intéressée à la production de spectacles. Elle a été très active auprès des ballets du Marquis de Cuevas, qui ont été une magnifique troupe de ballets, qui ont d'ailleurs accueilli Nourieff. Quand Nourieff a fait le grand saut vers la liberté, il a trouvé son premier emploi en ayant rompu absolument tous les liens avec sa troupe originelle russe. Il a trouvé son premier emploi avec le Marquis de Cuevas. Donc là, il y a eu des ballets extraordinaires. Et Jacqueline de Ribes s'est occupée de l'organisation et même souvent de la production de ces ballets. Elle a aussi été très active dans d'autres secteurs, notamment tout ce qu'on appelle le charity business, c'est-à-dire elle s'est donnée beaucoup pour le mécénat, notamment auprès des enfants. Elle a œuvré activement pour des associations diverses, notamment l'UNICEF, mais pour d'autres associations aussi. Et puis, évidemment, elle a trouvé son grand épanouissement en créant, quand elle avait déjà 50 ans, une cinquantaine d'années, sa propre maison de couture. Et c'est là, pendant une douzaine d'années, qu'elle va donner vraiment sa dimension, en étant à la fois créatrice, mais aussi chef d'entreprise, car c'est elle qui devait en même temps gérer cette affaire. C'est compliqué, la couture, parce que une chose est de créer des robes, autre chose est effectivement de trouver la clientèle, de trouver les boutiques qui vous distribuent. Tout ça était extrêmement compliqué et elle l'a fait pendant une dizaine d'années.
Oui, elle a été initiée.
Donc c'est une femme à plusieurs, j'allais pas dire casquettes, ça ne lui va pas, casquettes. Mais bon, oui, elle a eu vraiment des vocations diverses. Elle a même construit des maisons aux Baléares, enfin conseillant divers architectes pour créer ces maisons.
Elle est initiée à la couture, on n'en a pas parlé, mais sur, avec Oleg de Cassini, avec beaucoup de créateurs de mode italien, oui. Avec Valentino, et avec, je ne sais plus, un troisième italien, que j'ai oublié le nom. Donc avant de vraiment créer sa maison de couture, elle avait déjà collaboré, mais son nom n'était pas apparu, en fait. Donc souvent, là, on a l'impression qu'elle a collaboré avec des artistes, mais son nom n'apparaissait pas. Et là, pour le coup, vous a fait apparaître, ça, comme beaucoup de femmes, en fait, qui ont collaboré avec des œuvres d'art, mais leurs noms ont disparu. Donc vous la réhabilitez sur plein de...
Oui, elle a appris, en fait, la couture sur le tas. C'est une petite fille, au départ, qui adorait les vêtements. Elle adorait se déguiser. Elle prenait un drap de lit, une serviette de bain ou un sac de pommes de terre, par exemple. Et puis elle découpait, elle cousait et elle se transformait en dame du Moyen-Âge ou en tahitienne. En fait, elle a tout de suite su coudre, broder, repasser. C'est une femme manuelle, elle aime se servir de ses mains. Elle est douée manuellement. Et ensuite, elle a appris, évidemment, en s'habillant elle-même, et en s'habillant chez les plus grands couturiers. Jacqueline de Ribes est une femme qui a porté les plus belles robes du monde. Elle a porté les robes de Saint-Laurent, les robes de Dior, les robes de Balenciaga, de Jean-Paul Gaultier, etc. Et donc, comme ce sont des robes qui sont faites directement sur les clientes, et Jacqueline de Ribes arrivait toujours à faire transformer le modèle pour elle-même. Donc le modèle de départ ne ressemblait plus du tout au modèle de l'arrivée parce qu'il était transformé par Jacqueline de Ribes. Cette chose-là amusait beaucoup Yves Saint-Laurent, qui l'a laissé faire et qui l'a laissé à la fois changer la silhouette, la ligne, les épaules, la taille, etc., et faire sa propre robe. Donc elle a le goût de s'habiller et surtout de créer sur elle-même les robes. Et donc quand elle a rencontré Oleg Cassini, il a tout de suite compris, Oleg Cassini qui est un très grand couturier d'origine italienne, mais qui travaillait beaucoup aux États-Unis, qui a habillé Jackie Kennedy. Le look de Jackie Kennedy, c'est Oleg Cassini pendant des années. Donc, il a créé une centaine de robes pour elle. Et Oleg Cassini a demandé à Jacqueline de Ribes d'imaginer des robes pour lui, parce qu'il avait vu chez cette femme le fameux chic français, cette élégance française qui fascine tellement les Américains. Et Oleg Cassini lui a demandé des idées de robes, des idées de toilettes, comme on disait à ce moment-là. Et donc Jacqueline de Ribes a créé pour lui des sortes de brouillons de robes, vous voyez, avec des matières brutes, en fait, hein, pas du tout dans les soies dans lesquelles elles seront réalisées, mais vraiment ce sont des vrais modèles de haute couture. Et puis, elle ne dessine pas, il y a beaucoup de couturiers qui savent faire des robes, qui coupent, qui cousent, mais qui ne dessinent pas. Donc, il fallait qu'elle trouve quelqu'un qui dessine. Et à ce moment-là, l'un des couturiers qui l'habillait, qui s'appelle Jean de Say, lui a conseillé un jeune homme qui était apprenti, même pas apprenti, mais enfin qui était chez lui, qui a un rôle très modeste, et qui s'appelait Valentino Garavani. Et c'est le futur Valentino qui va dessiner pour Oleg Cassini les modèles de Jacqueline de Ribes. Il y a toute une histoire très, très belle de rencontres autour de Jacqueline de Ribes dans cet univers de la mode où elle arrive, cette femme du monde qui aurait pu rester une femme du monde, elle arrive au niveau de la création et elle passe de l'autre côté du miroir, elle passe du côté des créateurs. Elle veut absolument laisser sa patte, laisser sa signature. Et il y aura une signature, Jacqueline de Ribes, qui va traverser l'Atlantique, car elle aura des clientes non seulement en France, mais également en Amérique. Elle va habiller, Nancy Reagan, elle va habiller celle qui est l'actrice principale de Dynasty de l'époque, un grand feuilleton que tout le monde regardait, qui s'appelle Joan Collins. Elle habille des femmes célèbres américaines. Donc, c'est la preuve, si vous voulez, qu'elle a créé un style. Ce style Jacqueline de Ribes.
Justement, ce style, ça a fait l'objet d'une exposition au Met à New York en 2015, Jacqueline de Ribes, The Art of Style. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être elle-même disait, peut-être son espèce d'autoportrait, cette exposition, c'était peut-être son grand, enfin, voilà, sa vie, toute sa vie était là.
Oui, de même qu'elle a eu en 2017, donc son visage dans l'Empire State Building, en effet. En 2015, il y a eu une exposition au Metropolitan Museum de New York. Pas une exposition par la porte latérale de côté, mais vraiment par la porte principale du Metropolitan. Une exposition sur elle. Et c'est rarissime parce que le Met, on dit le Met pour le Metropolitan, n'avait ouvert ses portes à un créateur de mode vivant qu'à une seule personne avant Jacqueline de Ribes, c'est-à-dire à Yves Saint-Laurent. Et donc elle va avoir le tapis rouge à New York et pouvoir exposer les robes de sa vie. Le Metropolitan avait trouvé le meilleur titre qui soit puisqu'il avait dit « Jacqueline de Ribes, the art of style, l'art du style ». Elle n'aime pas du tout le mot mode. Elle déteste la mode, en fait, Jacqueline de Ribes, qui lui paraît tout de suite démodée, à peine exprimée. Alors que le style, pour elle, c'est quelque chose d'intemporel. Et elle ne se préoccupe pas d'être à la mode, elle se préoccupe d'avoir du style. Au fond, ce qu'elle donne à voir, en général, ce sont des robes très épurée, mais somptueuse, dans des très belles matières et des très belles couleurs. C'est un festival de couleurs. Bien sûr, il y a du noir et du blanc, mais il y a des très, très beaux tons, orangé, bleu nuit, etc. Donc, il y a une palette également, Jacqueline de Ribes, au Metropolitan. C'est une exposition qui a été remarquablement accueillie parce que les Américains ont une énorme curiosité pour ce qui a trait au patrimoine culturel français. Et je dirais que le style Jacqueline de Ribes, au fond, il entre un peu, d'une certaine façon, dans le patrimoine, parce que c'est un témoignage de l'élégance française. Alors, je sais bien que le mot élégance n'est plus tellement dans l'ambiance, etc. Mais oui, quand même, ça fait partie, comme les cathédrales, comme les belles églises romanes, comme les fromages, comme le bon vin. L'élégance française, c'est encore quelque chose qui existe, peut-être moins à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur de nos frontières. Et pour les Américains, la femme française, c'est un peu cette silhouette-là, c'est-à-dire entre Brigitte Bardot et Jacqueline de Ribes, un mix de grâce, de vivacité, de façon de s'habiller, typiquement français.
Quand vous parlez d'élégance, on peut peut-être parler de Yves Saint Laurent, qui était comme une grande amie de Ribes, qui, lors de sa première grande collection qu'elle a présentée à l'hôtel de bienfaisance, a été vraiment lui a écrit des textes, le texte dont vous transcrivez, qui est magnifique, c'est un très 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 beau texte sur dommage à Jacqueline de Ribes. Est-ce qu'on peut parler de cette amitié qu'il a avec Yves Saint Laurent, donc?
Je dois dire que lorsque j'ai regardé la correspondance de Jacqueline de Ribes, les lettres de Saint-Laurent sont vraiment merveilleuses, parce que ce sont presque des lettres d'amour. Il y a une amitié très affectueuse entre eux. Il lui envoie des petites cartes qui accompagnent des fleurs. Il lui envoie des petits mots sans cesse. Et quand elle crée sa maison de couture, en 1983, non seulement il la conseille, non seulement il est venu voir les robes chez elle en priorité, parce que pour elle, le premier examen à passer, c'était le regard d'Yves Saint-Laurent, Donc il a vu en priorité la collection qu'elle allait présenter aux journalistes ensuite. Non seulement il lui envoie des techniciens qui vont se charger des éclairages, qui vont se charger d'organiser un podium chez elle, parce que sa première collection a lieu dans son hôtel particulier parisien, rue de la Bienfaisance, mais il vient lui-même assister à la première collection de Jacqueline de Ribes. C'est assez rarissime quand même qu'un grand couturier vienne voir une collection qui est celle d'une femme du monde, qui essaie de faire son premier pas dans cet univers si difficile de la mode. Donc il est présent et il sera présent tout le temps. L'une des lettres les plus fortes, je pense qu'il ait écrite, c'est celle où il s'inquiète en fait pour elle. Et il lui décrit cet univers de la mode comme un univers cruel, plein de choses trappes, de difficultés, de rivalités. Et il la met en garde. Il la met en garde et il lui dit cette phrase incroyable. Il lui dit « Je ne voudrais pas vous voir souffrir parce que moi-même, je souffre beaucoup d'être là, d'avoir à créer sans cesse et d'avoir à affronter ce terrible univers. » Donc il la met en garde et en effet, pour elle, ces 12 années vont être une véritable bagarre, un combat. Et elle en sortira assez meurtrie.
C'est étonnant, oui, parce qu'on parlait de cette maison de couture. Elle était beaucoup vendue aussi au Japon, parce qu'elle avait une succursale au Japon. Et vous expliquez dans le livre qu'il y avait ils ont reproduit un magasin qui était l'hôtel de bienfaisance. Ils avaient refait en fait entièrement le lieu à Paris. Voilà ce que nous parliez de ça. Est-ce que vous l'avez visité? Est-ce qu'il existe toujours?
Alors malheureusement non, je n'ai pas pu le visiter, mais en effet, les Japonais qui eux aussi sont très perfectionnistes et qui ont un goût de l'esthétique, avaient complètement reconstitué cet hôtel de la bienfaisance, qui est un hôtel 19e pour l'extérieur, mais qui à l'intérieur était entièrement meublé façon 18e, avec des reliques de Marie-Antoinette, etc. Donc ils avaient essayé de reconstituer vraiment ce salon. Et non seulement y étaient exposées les robes, mais il y avait également des salles où on pouvait apprendre, et les Japonais en sont très friands, on pouvait apprendre l'art de vivre de Jacqueline de Ribes, c'est-à-dire comment mettre la table, comment faire un joli bouquet de fleurs, comment recevoir ses amis, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là, toujours la France qui s'exporte, la France exporte son art de vivre, et ils ont été sensibles à cet aspect de la maison de mode, de la maison de couture.
Dans votre livre, vous parlez de Jacqueline de Ribes, une créatrice de mode, mais aussi qu'elle était une artiste, en fait, que sa vie était une œuvre d'art, en fait, que sa manière d'être, de se présenter, et vous l'avez même rapproché de la performance, même du body art, parce que vous pouvez nous expliquer ce rapprochement un peu surprenant.
Oui, si je crois que si elle n'avait été au fond qu'une femme du monde. Une femme qui vit sa vie de bal en bal, vêtue en Saint-Laurent et en Balenciaga, je ne crois pas que j'aurais écrit ce livre. En fait, je l'ai écrit en même temps parce que il y avait cette société, en effet, à l'arrière-plan, une société étonnante et aussi étrange qu'une Atlantide, qui est complètement engloutie, qui a disparu. Mais je l'ai écrit pour elle parce que j'ai été captivée par cette attitude qui est la sienne. En fait, elle se comporte toujours comme s'il y avait un photographe dans la pièce, comme si elle était sur une scène de théâtre. Et elle a forgé, créé, sculpté son personnage au fil des années. Au fond, elle offre une image idéale de soi. Elle n'a pas peint, elle n'a pas sculpté, elle n'a pas écrit. Et c'est quand même une artiste. C'est une artiste comme sont aujourd'hui des artistes Marina Abramović, par exemple, c'est-à-dire des artistes de la performance. Jacqueline de Ribes, elle a mis au point une sorte de performance de soi. Et c'est une caractéristique que je trouve très contemporaine. Aujourd'hui, tout le monde se prend en selfie en permanence, c'est-à-dire on s'observe, on se regarde, on se photographie, on se regarde photographier, on se compare. On peut même transformer son apparence aujourd'hui avec le téléphone. On change la couleur de ses cheveux, on modèle son visage, etc. Chez Jacqueline de Ribes, il y a ce goût de la performance et il y a ce culte de se saisir à l'instant même. Il y a quelque chose d'évidemment très narcissique, à la fois dans notre époque et dans mon personnage de Jacqueline de Ribes. Mais c'est intéressant parce que justement, cette femme proustienne, cette femme aristocrate qui appartenait à un passé, et qui ensuite a appartenu à cette jet set années 70, aujourd'hui, elle est assez moderne, à la fois par ses aspirations à vouloir gérer sa vie, à vouloir diriger son destin, à prendre en main sa vie, et puis par ce goût, au fond, un peu narcissique de l'image.
En lisant votre grande biographie qui fait 500 pages, à la fin, elle reste toujours aussi mystérieuse pour moi. Elle est difficilement déchiffrable. Quand vous l'avez rencontrée, j'ai du mal à penser qu'elle rentre dans l'intimité, que c'était difficile de rentrer dans cette intimité. C'est quelque chose de quelqu'un de secret.
Oui, c'est quelqu'un qui se protège. Vous voyez, c'est un peu en même temps la limite d'une biographie quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, quelqu'un de vivant. Donc, il n'a pas envie forcément de vous donner tous les secrets de sa vie. Il vous en livre un petit peu, mais pas complètement. Donc, cette espèce de protection, cette espèce de bulle de verre, je l'ai ressentie tout le temps. Et dans mon livre, j'ai essayé de la rendre parce qu'elle était authentique. Elle fait partie du personnage qui elle veut qu'on la voie sous un certain jour, Jacqueline de Ribes. Donc, par moments, je perçais la paroi de verre, je me rapprochais, et puis je m'en éloignais, et puis je revenais. Donc cet éclairage à multiples facettes, j'espère que je l'ai rendu dans ma biographie. Au fond, le biographe, c'est le premier spectateur, et le regard du biographe, c'est celui que le lecteur va avoir lui aussi. Donc ce regard, il n'est pas tout d'une pièce non plus, il est fait d'admiration, quelquefois un peu d'ironie, de distance. Vous voyez, il est mitigé, mon regard. Donc la lumière n'est pas brutale, elle n'est pas crue. Elle est multiple, elle est kaléidoscopique. C'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est de rendre l'image autour d'elle, un peu comme un photographe. Vous voyez, je n'allais pas mettre tous les projecteurs violemment, non. Je change la lumière selon les chapitres, selon les moments. Et peut-être votre impression est-elle due à ça, justement, au fait que je n'avais pas envie d'être crue. Ça n'avait pas d'intérêt. Ce qui était difficile et en même temps intéressant pour moi, c'était de recréer cette lumière autour d'elle, une lumière que j'ai ressentie tout au long de nos entretiens et tout au long de nos recherches. Et puis essayer de garder le côté, la légèreté. Vous voyez, je voulais pas. Il y a 500 pages, mais j'espère qu'elle ne pèse pas trop et que finalement il y a plus de côté d'irisation et de scintillement que de documents pesants, etc. autour de ce personnage qui est fascinant par sa lumière.
Effectivement, ce n'est pas du tout pesant, ça sent pas, je lis très très vite. Et bien, j'ai trouvé que le moment peut-être le plus heureux de sa vie, c'était Ibiza, enfin, une espèce de moment dans sa vie. Peut-être que, est-ce que vers, en lisant le livre, c'est vraiment ce sentiment-là qu'elle était vraiment intensément heureuse à Ibiza. Est-ce que c'est juste une impression ou vous avez ressenti ça, ce moment-là de sa vie, c'est un moment exceptionnel?
C'est difficile de ne pas être heureux à Ibiza en même temps, surtout un Ibiza des années 68. L'île est encore un peu sauvage, il n'y a pas tous les touristes qui sont là aujourd'hui. Elle est beaucoup moins fréquentée à l'époque, cette île, que les autres Baléares. Il y a beaucoup de hippies qui sont venus, qui y habitent. Enfin, et elle a découvert cette île, ce sont des amis qui lui ont fait connaître cette île, à un moment où justement elle est un peu... Elle a une suite de chagrins, elle n'a pas forcément le bonheur, hein, parce qu'on peut être belle, riche, etc., et ne pas avoir le bonheur non plus. Donc le bonheur chez elle, il y a beaucoup de blessures, de fractures comme ça dans sa vie. Et tout à coup, cette île ensoleillée, cette île sauvage où on peut vivre libre sans ce carcan, vous voyez, où elle est enfermée, parce que c'est une femme qui a tout de même vécu dans un carcan, ce carcan d'une société assez rigide, où les choses se font ou ne se font pas, etc. Et là, c'était la liberté, c'était vivre pieds nus, en maillot de bain, tranquillement, ou en pareo, et tout à coup déconnecté des autres réalités, même familiales, sans doute. Donc, il y a le soleil qu'elle a beaucoup aimé aussi, refuge dans une maison au bord de la mer. Enfin, oui, je crois, c'est un moment de bonheur.
Mais c'est surtout, elle a construit sa maison, c'était sa maison.
Et c'était la première maison qui était vraiment la sienne, parce qu'autrement, elle a toujours vécu au départ chez ses parents, bien sûr, mais ensuite chez son mari, puisqu'elle a habité l'hôtel particulier de son mari en même temps que ses beaux-parents et même que la grand-mère de son mari. Vous voyez, quatre générations qui vivaient à un moment donné à l'hôtel de la Bienfaisance. Et donc, quand elle partait en vacances, elle louait des maisons. Donc, tout d'un coup, c'est comme construire son nid, un nid à son image. Voilà. Donc, à la fois, une maison qui était en harmonie avec la nature, parce qu'elle a toujours aimé beaucoup la nature, les jardins. Et la maison est toute simple et ouverte sur... sur le maquis des Baléares.
Dernière question, est-ce qu'elle a lu votre biographie? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en a dit ou pensé?
Alors, elle a lu ma biographie, elle l'a lu uniquement, c'était un accord entre nous, elle a lu seulement à sa parution. Je n'ai pas voulu lui montrer le manuscrit, parce que je ne voulais pas qu'elle corrige le manuscrit. J'assume le livre que j'ai écrit, c'est mon regard sur elle. Je lui avais toujours dit, je n'écris pas vos mémoires, j'écris un livre sur vous, inspiré par vous, avec le regard qui est le mien. Donc quand elle a eu le livre, je crois que d'abord elle avait accepté bien sûr que j'écrive ce livre, elle était parce que c'est une femme qui était en lutte contre le temps qui passe. Alors, l'idée d'une biographie, évidemment, c'est un peu rassurant. On se dit, la biographie, finalement, c'est un condensé de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre. Et puis, c'est appelé à rester, plus ou moins. C'est ça. Le livre sera toujours là. On pourra toujours le feuilleter plus tard, même quand je ne serai plus là. C'est l'idée, au départ, pour elle, c'était ça. Mais au départ, le livre l'a quand même, bouleversé, beaucoup ému, parce que justement, elle ne maîtrisait pas tout dans ce livre et qu'il y avait ce mélange de confidence et d'un regard extérieur, qui était le regard de Dominique Bonnat. Bon, mais maintenant, elle a apprivoisé le livre. Et elle se dit contente, finalement. C'est le mot que j'ai recueilli pas plus tard qu'hier, contente, parce qu'on parle d'elle, parce qu'elle est à nouveau, finalement, elle sort de sa retraite, de sa solitude. C'est une femme qui a passé 90 ans, qui est toujours belle, mais qui est quand même très, très marquée par les souffrances physiques. Et le fait de se revoir et de revivre dans un livre des épisodes de sa jeunesse, de sa vie, tout ça forme une sorte de mouvement où elle est à la fois heureuse et un peu secouée. Voilà. Mais oui, c'est une entreprise étrange, la biographie. La biographie, c'est à la fois pour Jacqueline de Ribes, c'est une manière de prolonger sa vie, de rester dans un livre, un peu avec sa légende. Je crois que c'est la légende de Jacqueline de Ribes, mon livre.
Parfait, merci.